Bonjour à tous et bienvenue pour notre webconférence sur l'inaptitude professionnelle. Je suis Mylène Volpillac, je suis ambassadrice sur e-travail et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée par Alexandra Marion. Bonjour Alexandra.
Bonjour Mylène, bonjour à tous.
Alexandra qui est juriste expert chez Jury Travail. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on va faire un petit point sur ce qu'est Jury Travail. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans. 20 ans d'ailleurs cette année. Nous avons une équipe de plus de 50 juristes et 700 avocats qui chaque jour décryptent l'actualité juridique pour vous et rédigent des dossiers, des modèles de lettres, des modèles de contrats qui vont vous aider dans la gestion de votre entreprise au quotidien. Ces experts-là vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Aujourd'hui, et nous en sommes très fiers, nous avons plus de 3 000 entreprises qui nous font confiance et qui utilisent nos services au quotidien pour la gestion de leur entreprise et de leurs salariés. Quelles sont-ils du coup nos formules? Ce sont des formules que nous avons créées exclusivement du coup pour les professionnels. Il y en a deux, la formule pro et la formule premium, qui va vous permettre de contacter un juriste qui répondra à toutes vos questions, quel que soit le domaine de droit. Vous pourrez contacter ce juriste-là par téléphone. Vous pourrez accéder à l'ensemble de notre base documentaire, nos dossiers, modèles de lettres de contrat, et bien évidemment profiter de votre convention collective à jour des derniers accords. Je vous invite vivement, à l'issue de notre webconférence, à aller sur le site de Jury Travail, où Elodie vous enverra directement le lien dans le chat, découvrir nos solutions et choisir la formule qui vous convient le mieux et correspond le mieux, du coup, à votre entreprise. Nous allons du coup pouvoir rentrer dans le vif du sujet, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'inaptitude professionnelle. Petit tour un petit peu sur le contexte. Suite à un arrêt de travail pour maladie ou un accident, une maladie professionnelle ou un accident de travail, votre salarié peut être déclaré inapte. Dans ce cas-là, quel est le mode opératoire à suivre pour vous, employeur? Quelles sont vos obligations? Que signifie la procédure de reclassement? En quoi elle consiste? Et à l'issue, comment se déroule un licenciement pour inaptitude et quel est le coût, bien évidemment, pour vous de ce licenciement-là? Nous verrons ça avec Alexandra. Nous allons détailler l'ensemble des procédures dans 6 grandes parties. La première, qu'est-ce que l'inaptitude déjà à son poste de travail? Où Alexandra va nous donner une définition de l'inaptitude pro et de l'inaptitude, je vais y arriver, non professionnelle. Ensuite, nous parlerons de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, suivie d'une partie complète sur l'obligation de reclassement. Quel type d'emploi vous pouvez proposer aux salariés? Êtes-vous tenu de le former? Devez-vous consulter le CSE? Comment formaliser cette obligation de reclassement? Dans une quatrième grande partie, nous aborderons la procédure de licenciement. Ensuite, le licenciement du salarié inapte qui a refusé cette fois la proposition de reclassement. Et en dernière partie, nous allons faire un petit vrai-faux. Nous allons aborder vraiment des questions qui peuvent arriver à chaque entreprise et Alexandra nous y répondra. Alexandra, du coup, si tu le veux bien, nous allons pouvoir débuter. Sachez que si vous avez des questions pendant la webconférence, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'onglet en bas à droite de votre écran, questions. Nous y répondrons en fin de webconférence. Alexandra, si tu le veux bien, nous allons pouvoir y aller avec notre première grande partie qui est qu'est-ce que l'inaptitude à son poste de travail? Et peux-tu nous donner une définition, s'il te plaît?
Alors, l'inaptitude à son poste de travail, elle peut se définir comme l'impossibilité physique ou mentale d'un salarié à occuper son poste. Cette impossibilité, elle peut résulter notamment d'un accident ou d'une maladie dont l'origine peut être professionnelle ou non. Seul le médecin du travail va pouvoir constater l'inaptitude d'un salarié. Ça veut dire que le médecin traitant ne délivre pas d'avis d'inaptitude, auquel cas, s'il le fait, l'avis ne sera pas valable aux yeux de l'employeur. Cette inaptitude, elle peut aussi être constatée soit à la suite d'un arrêt de travail, mais également à n'importe quel moment au cours de l'exécution du contrat de travail. Elle ne fait pas forcément suite à un arrêt de travail. Le salarié peut être déclaré partiellement inapte à reprendre son travail ou totalement inapte selon les conséquences que l'accident ou la maladie a sur son état de santé. Et l'inaptitude peut également être temporaire ou définitive.
Merci beaucoup Alexandra. Peux-tu nous donner maintenant les différences entre l'inaptitude professionnelle d'une part et la non professionnelle?
Alors, la différence entre l'inaptitude pro et l'inaptitude non professionnelle, elle réside dans un premier temps dans l'origine de l'inaptitude. Comme leur nom l'indique, dans le cadre d'une inaptitude non professionnelle, l'impossibilité physique ou mentale du salarié à occuper son poste, va résulter d'un accident ou d'une maladie qui n'est pas d'origine professionnelle. Elle relève donc de la vie privée du salarié. Et par conséquent, inversement, l'inaptitude professionnelle, comme son nom l'indique, c'est l'impossibilité physique ou mentale du salarié à occuper son poste de travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle dont il est victime. Il y a un autre point aussi qui permet de différencier les deux, c'est le montant des indemnités qui vont être versées en cas de licenciement du salarié inapte. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard, dans la webconférence.
Merci Alexandra. Nous allons pouvoir passer à notre deuxième grande partie sur la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Peux-tu nous expliquer un petit peu cette procédure?
Alors, oui. Donc, comme on l'a expliqué un petit peu précédemment, donc seul le médecin du travail va pouvoir rendre un avis d'inaptitude. Donc, ça veut dire que le médecin traitant ne peut pas le rendre, ni même un autre professionnel des services de santé au travail. Donc, par exemple, un infirmier de la IST ne pourra pas rendre cet avis d'inaptitude. L'avis d'inaptitude, il va pouvoir être délivré à l'occasion de n'importe quel examen médical devant le médecin du travail. Donc, il peut tout à fait être rendu lors d'un examen médical que vous avez vous-même sollicité. Donc, par exemple, à l'issue d'une visite de reprise du travail, mais également lors d'un examen médical qui a été organisé à la demande du salarié. La constatation de l'inaptitude, elle est soumise à une procédure bien précise qui comprend quatre étapes. Donc, dans un premier temps, le médecin du travail va réaliser au moins un examen médical du salarié. Donc, désormais, un seul examen médical suffit pour constater l'inaptitude. Mais si le médecin du travail estime que c'est nécessaire, il peut tout à fait réaliser un examen complémentaire. Dans ce cas-là, ce second examen va être réalisé dans un délai qui n'excède pas 15 jours après le premier examen. Et c'est après ce second examen que sera notifié l'avis d'inaptitude ou d'aptitude. Ensuite, le médecin du travail va réaliser ou faire réaliser par un membre de son équipe pluridisciplinaire une étude de poste de travail occupée par le salarié. Donc, cette étude, elle doit permettre au médecin du travail d'établir si l'état de santé du salarié est compatible ou non avec le poste auquel il est affecté et dans quelle mesure. Ensuite, le médecin du travail réalisera également une étude des conditions de travail dans l'entreprise ou l'établissement. Et enfin, le médecin du travail devra réaliser un échange avec l'employeur. Donc là, l'objectif de l'échange, c'est vraiment d'engager une discussion sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste qu'il est possible de mettre en place, ou encore sur la nécessité de proposer un changement de poste au salarié. C'est une fois ces quatre étapes respectées que le médecin du travail rendra soit un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Si le médecin du travail rend un avis d'aptitude, c'est simple, le salarié reprendra son travail. Par contre, s'il délivre un avis d'inaptitude, celui-ci sera automatiquement accompagné de conclusions écrites et d'indications et recommandations relatives au reclassement du salarié. Également, le médecin du travail va pouvoir proposer des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste. Et enfin, il pourra aussi mentionner dans l'avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé de celui-ci fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Si jamais c'est le cas, là par contre, l'employeur n'aura pas à reclasser le salarié. Là encore, on y reviendra un peu plus tard au cours de la webconf.
Merci Alexandra, c'était très clair. L'employeur peut-il contester l'avis d'inaptitude?
Alors oui, tout à fait. L'employeur a la possibilité de contester un avis d'inaptitude qui est rendu par le médecin du travail. Donc désormais, cette contestation, elle doit se faire devant le conseil de prud'homme dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'avis d'inaptitude. Donc là, la contestation, elle peut porter sur les avis, propositions ou conclusions écrites qui ont été émises par le médecin du travail et qui reposent sur des éléments de nature médicale. Donc, si contestation il y a, le conseil des prud'hommes peut alors saisir le médecin inspecteur du travail qui est territorialement compétent. Et donc là, ce médecin inspecteur du travail sera chargé d'éclairer le conseil des prud'hommes sur les questions de fait qui relèvent de sa compétence. L'employeur va lui aussi pouvoir demander à ce que les éléments médicaux qui ont fondé l'avis d'inaptitude soient notifiés à un médecin que l'employeur aura mandaté à cet effet. Et donc là aussi, le médecin que l'employeur aura mandaté pourra apporter sa contribution pour aider le conseil de prud'homme à prendre sa décision. Donc là, le conseil de prud'homme, dans ce cas-là, il va statuer selon ce qu'on appelle une procédure accélérée au fond. Donc c'est une procédure qui est très rapide. Et la décision qui va être rendue par le CPH, elle va se substituer à l'avis et aux conclusions qui avaient été rendues par le médecin du travail. Par contre, il faut savoir que cette procédure accélérée au fond devant le CPH, elle n'est plus gratuite depuis le 1er janvier 2017. Mais par contre, le conseil de prud'homme peut tout à fait, dans certains cas, décider de ne pas mettre à la charge de la partie perdante les honoraires et les frais d'expertise qui ont été nécessaires lors de cette action. Voilà.
D'accord. Mais merci beaucoup, Alexandra. Nous allons pouvoir passer à notre troisième partie qui intéresse souvent beaucoup les employeurs, à savoir l'obligation de reclassement, donc le préalable au licenciement pour inaptitude. Dans cette obligation de reclassement, de quel type d'emploi quel type d'emploi l'employeur peut proposer aux salariés et est-il tenu de le former?
L'emploi proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, il doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié. Donc, au besoin, cet emploi va être rendu aussi comparable que le précédent par des mesures telles qu'une mutation, un aménagement, une adaptation ou une transformation de poste de travail, ou encore un aménagement du temps de travail peut être envisagé. L'obligation de reclassement d'un salarié inapte va viser les postes qui sont disponibles dans l'entreprise. Donc, ce qui signifie que l'employeur n'a pas l'obligation d'imposer à un autre salarié la modification de son contrat de travail pour rendre un poste disponible pour le salarié à reclasser. Il faut savoir également que l'ensemble des tâches qui sont confiées, par exemple, à des stagiaires, ces tâches ne constituent pas un poste disponible. Les stagiaires, pardon, n'étant pas des salariés de l'entreprise, ils ne font que suivre une formation au sein de cette dernière. Donc, à ce titre, l'employeur ne peut pas proposer le poste occupé par un stagiaire à un salarié déclaré inapte. Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement qui comporte une modification du contrat de travail, il doit tout de même en faire la proposition au salarié qui, par contre, est en droit de refuser cette modification du contrat de travail pour être reclassé. Donc, à ce titre, l'employeur va pouvoir proposer, par exemple, un poste qui nécessite un changement de domicile. L'employeur va pouvoir également proposer au salarié un poste précaire tel qu'un contrat à durée déterminée. Donc là, il est même dans l'obligation de le faire s'il n'existe que ce type de poste disponible dans l'entreprise. Enfin, tous les postes comparables doivent être proposés aux salariés inaptes. Peu importe qu'un poste relève d'une catégorie d'emploi supérieure ou à l'inverse d'une catégorie inférieure à celle détenue par le salarié, ce poste doit être proposé. À partir du moment où le poste, dans ses caractéristiques, est aussi comparable que possible à celui qui était occupé antérieurement par le salarié, ce type de poste doivent être proposés également. Autre chose, le médecin du travail va pouvoir formuler des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation, le préparant à occuper un poste adapté. Il faut savoir que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base qui est différente de la sienne et qui relève d'un autre métier. L'employeur doit simplement permettre au salarié, par le biais de la formation, d'occuper un poste connexe au poste précédemment occupé, d'avoir une valeur ajoutée et de continuer d'évoluer professionnellement. Mais cette formation, elle n'a pas vocation à permettre aux salariés de maîtriser un nouveau poste relevant d'un autre métier. Dans ce cas-là, la formation apporte seulement une complémentarité par rapport aux compétences de base du salarié.
Merci beaucoup, Alexandra. Je vois que vous êtes plusieurs à nous poser des questions. Pour rappel, nous y répondrons du coup en fin de webconférence. Si malheureusement nous n'avons pas le temps de traiter toutes les questions, je vous invite vivement à la poser directement à nos juristes via le lien que vous enverra Elodie dans le chat. Ils se feront un plaisir de vous répondre gratuitement à votre première question sous les plus brefs délais. On continue du coup sur l'obligation de reclassement avec l'employeur est-il tenu de consulter le CSE avant de proposer un reclassement?
Alors oui, lorsque l'employeur souhaite proposer un ou plusieurs postes au salarié déclaré inapte en vue de son reclassement, il doit en effet consulter au préalable le comité social et économique. Il doit en effet solliciter son avis sur l'emploi qu'il souhaite proposer au salarié. En revanche, l'avis qui est rendu par le CSE, pardon, n'est que consultatif. Donc, ça veut dire qu'il ne lie pas l'employeur, qui reste libre de proposer ou non le poste en question au salarié. Il existe néanmoins une situation dans laquelle l'employeur n'est pas tenu de consulter le comité social et économique. C'est lorsque le médecin du travail l'a dispensé de toute recherche de reclassement.
D'accord, merci beaucoup. Dans quel cas l'employeur peut-il être exonéré de son obligation de reclassement?
Alors voilà, justement, c'est ce qu'on a commencé à aborder un peu là précédemment. Donc en fait, il y a deux cas qui permettent à l'employeur d'être exonéré de son obligation de reclassement et de procéder directement au licenciement pour inaptitude du salarié. Premier cas, c'est lorsque l'avis du médecin du travail va mentionner expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Et deuxième cas, ça va être lorsque l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il est indispensable que la mention figurant sur l'avis d'inaptitude soit l'une de celles que je viens de vous mentionner à l'instant, et ce, au mot près. J'insiste vraiment sur au mot près, puisque si ce n'est pas le cas, si la formulation est différente, l'employeur ne sera pas dispensé de son obligation de reclassement et le licenciement prononcé le cas échéant ne sera pas valable. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Ça va être le cas, par exemple, si l'avis d'inaptitude comporte la mention tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non. Que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Là, en fait, dans la première formulation, si vous avez bien entendu, on avait rajouté l'expression dans un emploi entreprise. Et cette formulation, elle suppose que le maintien dans un emploi au sein de cette entreprise en particulier pourrait être gravement préjudiciable pour la santé du salarié. Néanmoins, ça ne signifie pas que le salarié ne peut pas être classé dans un emploi au sein d'une autre entreprise. D'ailleurs, ce sera notamment le cas, par exemple, dans le cadre d'un groupe qui est composé de plusieurs entreprises. Une telle formulation sur l'avis d'inaptitude n'empêche pas le reclassement du salarié dans un emploi au sein d'une autre entreprise du groupe.
Merci beaucoup. Et comment on la formalise, cette proposition de reclassement?
Alors, le Code du travail n'exige pas que les propositions de reclassement soient faites par écrit. Par contre, le fait de ne pas proposer aux salariés les postes par écrit ne suffit pas à déduire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Par contre, pour des raisons de preuve, il est quand même recommandé de formaliser les offres de reclassement par écrit afin de justifier de la réalité des recherches qui ont été effectuées. Par contre, lorsque l'offre de reclassement entraîne une modification du contrat de travail du salarié, là, dans ce cas-là, l'employeur doit respecter le régime applicable à une telle modification et obtenir l'accord express du salarié. Il est vraiment indispensable, dans ce cas-là, de formaliser l'accord du salarié par écrit. Donc, concrètement, il faudra rédiger un avenant au contrat de travail. En revanche, lorsque la proposition de reclassement ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail, dans ce cas-là, aucune procédure particulière en termes de formalisme n'est applicable.
Merci beaucoup Alexandra. Et je le rappelle pour nos nouveaux arrivants, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous recevrez le replay du coup de la webconférence avec toutes les indications qu'a déjà dit Alexandra dans les prochains jours par mail. L'employeur doit-il prouver le sérieux de ses recherches de reclassement en cas de contestation du salarié?
Alors, en cas de contentieux, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de reclassement et effectué des recherches loyales et sérieuses. Il est donc indispensable de conserver le maximum de preuves des démarches accomplies pour tenter de reclasser le salarié. Donc, pour que l'employeur soit considéré comme ayant rempli son obligation de reclassement, la proposition de reclassement doit correspondre à un emploi, compatible avec les capacités du salarié, mais également avec les conclusions écrites du médecin du travail. L'employeur ne doit donc pas simplement faire des propositions de poste au hasard. Le sérieux, de ces recherches, il va s'apprécier également au regard des précisions et des informations pratiques, qui sont délivrées sur le poste proposé en reclassement. Donc, l'employeur qui propose un poste de reclassement sans préciser les conditions d'emploi, la rémunération, les horaires de travail du poste, dans ce cas-là, on va pouvoir considérer qu'il manque à son obligation de reclassement. Les recherches, enfin les propositions n'étant pas assez précises. Enfin, la preuve de votre obligation de reclassement, elle va résulter aussi des efforts que l'employeur a accomplis pour adapter, transformer ou effectuer des mutations sur le poste du salarié. Si l'employeur n'est pas en mesure de justifier qu'il a envisagé un quelconque aménagement de poste ou du temps de travail, on peut considérer qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, et ce, quand bien même il aurait apporté la preuve de nombreuses recherches de reclassement.
Merci Alexandra, c'est très clair. Que risque l'employeur qui ne cherche pas à reclasser son salarié?
Alors, si le salarié est licencié alors que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur, ce dernier encourt évidemment une sanction. Donc, le licenciement ne sera pas frappé de nullité. Par contre, le salarié pourra contester la légitimité de son licenciement et demander sa réintégration dans l'entreprise avec le maintien des avantages acquis avant la rupture du contrat de travail. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, donc c'est-à-dire si le salarié refuse d'être réintégré ou si tout simplement la réintégration n'est pas possible pour X raisons, le juge pourra décider d'octroyer au salarié une indemnité qui sera égale à au moins 6 mois de salaire.
Merci beaucoup Alexandra. Nous allons pouvoir passer à notre quatrième grande partie, cette fois-ci sur la procédure de licenciement pour inaptitude. Donc, quelle est-elle cette procédure qui doit être mise en œuvre pour licencier le salarié inapte?
Alors, la procédure de licenciement que l'employeur doit respecter en cas d'inaptitude du salarié, c'est celle applicable pour tout licenciement pour motif personnel, avec quelques aménagements particuliers qui concernent l'inaptitude. Donc, tout d'abord, l'employeur doit convoquer le salarié inapte à un entretien préalable. Il doit aussi évidemment l'informer de la possibilité de se faire assister lors de cet entretien. L'entretien se déroule et ensuite il doit lui notifier son licenciement par courrier. Donc ça, c'est pour faire simple les quatre grosses étapes, on va dire classiques du licenciement pour motif personnel. Mais avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit, comme on l'a évoqué précédemment, rechercher des solutions de reclassement, sauf s'il est expressément dispensé de cette obligation dans l'avis d'inaptitude qui a été rendu par le médecin du travail. Donc, au titre de cette obligation de reclassement, l'employeur va devoir consulter le comité social et économique sur les éventuelles solutions de reclassement qu'il pourrait proposer aux salariés. Si le reclassement n'est pas possible et que son licenciement est inévitable, dans ce cas-là, l'employeur va devoir faire connaître aux salariés par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. Et dernière précision importante qui concerne aussi les salariés protégés, si il s'agit du licenciement d'un salarié protégé, l'employeur ne peut mettre en œuvre la procédure de licenciement qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Merci Alexandra, c'est très clair. Sous quel délai l'employeur doit-il licencier le salarié déclaré inapte?
Alors, donc en fait, le Code du travail ne prévoit aucun délai pour licencier le salarié inapte à son poste. Toutefois, l'employeur a tout intérêt à reclasser le salarié inapte ou à le licencier dans le délai d'un mois suivant la date de l'examen médical de reprise du travail, puisqu'en effet, à l'expiration de ce délai de un mois, si l'employeur n'a ni reclassé ni licencié le salarié, il va devoir reprendre le versement des salaires correspondant à l'emploi occupé avant que le contrat de travail ne soit suspendu. Donc, et c'est la date de l'examen médical qui a donné lieu à un avis d'inaptitude qui est à prendre en compte pour faire démarrer ce délai de un mois.
Merci Alexandra. L'employeur peut-il licencier un salarié déclaré inapte pour un autre motif que l'inaptitude?
Alors, lorsque le salarié est déclaré inapte, il n'est pas possible pour l'employeur de le licencier pour un autre motif. Il doit obligatoirement engager une procédure de licenciement pour ce motif. À partir du moment où l'inaptitude du salarié a été médicalement constatée par le médecin du travail, l'employeur ne peut pas, par exemple, le licencier pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise, même si en l'état, c'est réellement le cas. Ça, ce n'est pas possible. L'employeur ne peut pas non plus prononcer un licenciement pour faute, même s'il avait engagé une procédure disciplinaire contre le salarié avant que le médecin du travail le déclare inapte. Dans ce cas-là, le licenciement pourrait être jugé comme sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui licencie un de ses salariés pour inaptitude peut-il exiger que celui-ci effectue un préavis?
Alors, non, il ne peut pas. En effet, le salarié inapte, il est dans l'impossibilité physique ou mentale de travailler. Donc, l'employeur ne peut pas attendre de lui qu'il effectue sa période de préavis. Le contrat de travail, il va prendre fin dès la notification du licenciement au salarié, autrement dit, à la date d'envoi de la lettre. L'inexécution du préavis, par contre, elle va donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis qui s'ajoutera à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité spéciale de licenciement dans le cadre d'une maladie, d'une inaptitude professionnelle. Il faut savoir également que la durée du préavis, même s'il n'est pas exécuté, elle va être prise en compte pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement.
Merci Alexandra. Donc vous pouvez le voir, hein, ce sujet est assez dense, il y a beaucoup de choses. Sachez que vous pourrez retrouver tout ce que je viens de vous dire et ce que vous dira Alexandra, toute la procédure, toutes les obligations dans notre dossier complet rédigé par nos juristes que vous allez pouvoir télécharger dès maintenant. Et Elodie vous enverra le lien via le chat. On continue du coup sur la procédure de licenciement, Alexandra. Pour la prime, cette fois-ci, quel est son montant dû au salarié du coup en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle?
Alors, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur, il est tenu de verser au salarié une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelle plus favorable, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Donc, pour rappel, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années. Et à un tiers de mois de salaire pour les années d'ancienneté à partir de 10 ans. Donc l'indemnité spéciale de licenciement, donc qui est égale au double de l'indemnité de licenciement, elle est versée sans condition d'ancienneté. Le salarié va bénéficier également de l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés qu'il n'a éventuellement pas posés avant d'être déclaré inapte, mais il va bénéficier aussi de l'indemnité compensatrice de préavis, même s'il n'est pas en mesure de l'effectuer. C'est une des particularités du licenciement pour inaptitude professionnelle. Le salarié bénéficie de l'indemnité compensatrice de préavis.
Merci Alexandra. Quelles sont les indemnités dues aux salariés en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle?
Alors là, par contre, dans le cas de l'inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur, donc, il est tenu, d'octroyer l'indemnité légale de licenciement ou conventionnelle si elle est plus favorable à l'indemnité légale. Par contre, contrairement au licenciement pour inaptitude, professionnelle, ici, l'indemnité de licenciement, elle n'est pas doublée. Dans ce cas-là aussi, l'indemnité légale de licenciement ne sera due au salarié que s'il justifie d'une ancienneté de plus de 8 mois. Là encore, le salarié va bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés s'il n'a pas pris tous ses congés avant son licenciement. Par contre, il ne va pas percevoir l'indemnité compensatrice de préavis. C'est là une des différences avec l'inaptitude professionnelle. Dans le cadre de l'inaptitude non professionnelle, le salarié n'a pas le droit à l'indemnité compensatrice de préavis. Par contre, la durée du préavis va bien être prise en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement.
Merci beaucoup Alexandra. Et dernière question de notre quatrième grande partie. L'employeur peut-il conclure une rupture conventionnelle avec un salarié inapte?
Alors là, on va se rapprocher plutôt de la Cour de cassation. Donc la Cour de cassation, elle a confirmé que sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, il était tout à fait possible de conclure une convention de rupture avec un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail. Donc même si cette solution a été adaptée dans le cas d'une inaptitude professionnelle suite à un accident du travail, on peut légitimement considérer aussi qu'elle va s'appliquer dans le cadre d'une inaptitude non professionnelle. Mais oui, du coup, selon la Cour de cassation, ça semble tout à fait possible.
Merci beaucoup, Alexandra, c'était vraiment très clair. Le licenciement du salarié inapte, cette fois-ci, qui a refusé une proposition de reclassement. Dans quel cas peut-on dire que le refus de l'emploi de reclassement par le salarié inapte est abusif?
Alors, la loi, elle ne définit pas ce qu'est un refus abusif. Les juges, dans ce cas-là, vont vraiment faire une appréciation au cas par cas en fonction des circonstances. Donc, je peux vous donner quelques exemples où les juges ont estimé que le refus du salarié était abusif. Ça a notamment été le cas lorsque plusieurs propositions de reclassement qui étaient conformes aux capacités physiques du salarié lui avaient été faites et qu'il n'a pas pris la peine d'y répondre. Là, la Cour de cassation a considéré que ce refus, on va dire implicite, était abusif. Ensuite, ça peut également être le cas lorsque le poste a été refusé sans motif légitime par le salarié, alors qu'il correspondait aux capacités physiques de celui-ci, selon les indications qui avaient été faites par le médecin du travail. Et sachant que ce poste qui avait été proposé était aussi comparable que possible au poste qui était précédemment occupé par le salarié. Donc le refus, il peut être explicite ou non, et le silence du salarié emporte refus de la proposition qui lui a été faite.
D'accord. Un employeur peut-il licencier un salarié en raison de son refus du poste de reclassement proposé?
Alors, l'employeur peut en effet rompre le contrat de travail du salarié inapte s'il justifie du refus par celui-ci de l'emploi proposé. Dès lors que l'employeur a loyalement proposé au salarié un emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, donc comme on l'a dit tout à l'heure, aux besoins de mesures telles que des mutations, aménagements, adaptations. Et à partir du moment où il prend aussi en compte les préconisations ou les indications du médecin du travail, dans ce cas-là, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Par conséquent, le refus d'un tel poste suffit à motiver le licenciement pour inaptitude sans que l'employeur ait besoin de rechercher ou de proposer d'autres postes. Un seul refus suffit.
Merci Alexandra. Quelles sont les conséquences financières, cette fois-ci en cas de refus abusif d'un poste de reclassement?
Alors, le refus abusif du poste proposé ne va pas permettre de licencier le salarié pour faute grave. Par contre, il peut avoir des conséquences sur les indemnités de licenciement qui vont lui être versées. En effet, lorsque le refus du salarié est abusif, l'employeur n'a pas à verser au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, ni l'indemnité spéciale de licenciement. Donc l'employeur, il va devoir verser l'indemnité légale de licenciement, mais il n'aura pas à doubler le montant de celle-ci, ce qui doit notamment, normalement, pardon, être le cas lorsqu'on licencie un salarié pour inaptitude professionnelle.
Merci Alexandra. Nous arrivons à notre dernière partie avant de répondre à vos questions. Il y a vraiment pas mal de questions, donc on va tenter après le vrai-faux de répondre à un maximum d'entre elles. Je vous rappelle que si nous n'avons pas pu répondre à votre question, vous pouvez les poser directement à nos juristes via le lien que vous avez envoyé, Elodie, dans le chat. Ils seront ravis de vous répondre le plus rapidement possible. Donc là, nous allons attaquer notre partie sur les vrais-faux, donc dans vraiment des situations que vous pouvez rencontrer au quotidien. Et premier vrai-faux, Alexandra, l'employeur a un mois pour licencier un salarié déclaré inapte.
C'est faux. Donc, comme je vous l'ai un peu expliqué précédemment, en réalité, le Code du travail ne prévoit pas de délai pour licencier un salarié déclaré inapte à son poste. Toutefois, s'il ne l'a pas reclassé ou licencié dans le délai de un mois qui suit l'examen médical de reprise du travail, dans ce cas-là, il doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi occupé avant que le contrat de travail ne soit suspendu. C'est pour cette raison, en fait, qu'on entend souvent à tort que l'employeur a un mois pour licencier le salarié inapte.
Merci beaucoup. Un salarié en CDD ne peut être licencié pour inaptitude.
Alors c'est vrai, là encore, il faut être vigilant aux termes qui sont utilisés. On parle bien souvent à tort du licenciement d'un salarié en CDD, mais en réalité, il s'agit d'une rupture anticipée du CDD. Donc on ne peut pas licencier un salarié en CDD, mais on peut rompre son contrat par anticipation. Et d'ailleurs, il est tout à fait possible de rompre le CDD d'un salarié en raison de son inaptitude, et ce, qu'elle soit d'origine professionnelle ou non.
L'inaptitude suffit à motiver le licenciement du salarié qui ne peut pas être reclassé.
Alors, c'est faux. Mis à part le cas où l'avis d'inaptitude précise que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'inaptitude, elle ne constitue pas un motif précis de licenciement. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il faut, dans la lettre de licenciement adressée au salarié, il faut qu'il soit fait mention non seulement de l'inaptitude, mais également de l'impossibilité de reclassement. La lettre de licenciement pour inaptitude qui ne mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement, elle prive le licenciement de causes réelles et sérieuses. C'est pourquoi il est vivement conseillé de mentionner dans la lettre de licenciement à la fois l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de reclassement.
Merci beaucoup Alexandra. L'employeur peut demander des dommages et intérêts à un tiers lorsque ce dernier est à l'origine de l'inaptitude du salarié.
Alors c'est vrai, lorsque l'inaptitude d'un salarié fait suite à des blessures qui ont été infligées par un tiers, l'employeur a la possibilité de demander à ce tiers des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'il subit du fait de la désorganisation de l'entreprise en raison du licenciement du salarié inapte.
Merci beaucoup Alexandra pour l'ensemble de ces réponses très claires et très complètes. Nous allons pouvoir passer à vos questions désormais, Alexandra, si tu le veux bien. Et nous allons du coup revenir un petit peu en arrière dans la webconférence et ce que tu as traité avec la première question. L'examen médical est-il obligatoire ou des rapports du médecin traitant suffisent?
Alors pour qu'un salarié soit reconnu comme inapte, c'est ce que j'ai expliqué un peu plus tôt dans la webconférence, il faut obligatoirement que cette inaptitude elle soit constatée par le médecin du travail selon la procédure que je vous ai expliquée un peu plus tôt, notamment par le biais d'un examen médical. Et du coup, j'ai oublié la deuxième partie de la question.
Où les rapports du médecin traitant suffisent.
Ah oui, ben non, du coup, non, non, les rapports du médecin traitant ne suffiront pas. C'est voilà, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment le médecin du travail qui va constater l'inaptitude. Et le médecin traitant n'a pas à intervenir dans cette procédure-là. Donc, bah, peu importe l'avis qu'il va pouvoir délivrer, il n'aura pas d'impact sur la reconnaissance de l'inaptitude par le médecin du travail.
Merci Alexandra. Question d'Anaïs. Lorsque le médecin du travail coche la case, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et qu'il indique dans ses conclusions, application de l'article, inapte définitif à tout poste dans l'entreprise et ou le groupe, l'entreprise est bien dispensée de reclassement. Je
Je relis la
redis.
question.
Lorsque le médecin du travail coche la case, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et qu'il indique dans les conclusions inapte et définitif à tout poste dans l'entreprise et le groupe, est-ce que l'entreprise est bien dispensée de reclassement?
Oui, dans ce cas-là, l'entreprise sera dispensée de reclassement, puisque là, on voit bien qu'il y a la mention expresse sur l'avis d'inaptitude, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Et du coup, oui, s'il est inapte définitif, en plus à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe, on voit bien que là, l'employeur a pas. Enfin, malgré les éventuelles recherches qu'il aurait pu effectuer, le reclassement s'avère compliqué. Mais bon, là, de toute façon, la question ne se pose pas puisque le médecin là, dispense clairement l'entreprise de rechercher un poste disponible pour le salarié.
Merci beaucoup Alexandra. Quelle est la différence entre l'inaptitude et l'invalidité?
Alors, donc là, comme je vous l'ai expliqué juste avant, l'inaptitude, elle est reconnue par le médecin du travail uniquement, alors que l'invalidité, elle est constatée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. L'invalidité, elle va être déclarée lorsque la capacité de travail du salarié est réduite et ce, en raison d'une maladie ou d'un accident dont l'origine n'est jamais professionnelle. Et le classement en invalidité du salarié, il ne va pas avoir de conséquences directes sur le contrat du travail, sur le contrat de travail, pardon. C'est une notion de droit de la sécurité sociale et non de droit du travail, l'invalidité. Et le classement en invalidité, il obéit à une finalité qui est distincte et à un régime juridique vraiment différent de l'inaptitude. Et d'ailleurs, enfin, qui dit invalidité ne veut pas forcément dire qu'il y a inaptitude. Un salarié en invalidité n'est pas forcément inapte au travail. Et inversement, un salarié inapte au travail ne bénéficie pas systématiquement d'une pension d'invalidité. Les deux choses n'ont vraiment rien à voir. Et il faut savoir que si le salarié inapte est également classé en invalidité, ça peut aussi arriver, ça peut arriver, l'employeur doit tout de même rechercher des possibilités de reclassement pour le salarié, sauf si évidemment il est dispensé par le médecin du travail via l'une des deux mentions expresses sur l'avis d'inaptitude. Mais voilà, c'est même si voilà, il y a aussi inaptitude plus invalidité, l'employeur n'est pas dispensé de recherche de reclassement.
Merci beaucoup Alexandra. Quelles indemnités doit verser l'employeur en cas de rupture du CDD pour inaptitude?
Donc, en cas de rupture du CDD prononcée pour inaptitude, en cas de rupture anticipée pour inaptitude, dans ce cas-là, le salarié en CDD a droit à une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement. En fait, la règle est la même que pour le salarié en CDI. Et le montant de l'indemnité légale sera doublé. Et en plus, il aura également droit à l'indemnité de précarité qui correspond généralement à 10% des rémunérations versées au cours du contrat. Et donc, cette indemnité de précarité va s'ajouter à cette indemnité spécifique de licenciement. Et oui, la rupture anticipée du contrat, en fait, elle, enfin, en cas d'inaptitude, elle ne figure pas dans la liste des cas d'exonération du versement de l'indemnité de précarité qui est prévue par le Code du travail.
Merci beaucoup Alexandra, c'était très clair. Est-ce qu'on peut demander aux salariés de prendre des congés au lieu de reprendre le versement du salaire à l'issue du délai de 1 mois?
Alors non, ce n'est pas possible. L'employeur ne peut pas, à l'issue du délai de 1 mois à compter de l'avis d'inaptitude, demander aux salariés de poser des congés payés ou même des RTT d'ailleurs. Ils doivent reprendre le versement du salaire s'il n'est pas en mesure de licencier le salarié. Et il ne peut pas non plus remplacer le paiement du salaire par une indemnité de congés payés non pris.
Merci beaucoup, Alexandra, pour l'ensemble de tes réponses. Nous n'aurons pas le temps, malheureusement, de répondre à toutes les questions que vous avez posées. N'hésitez vraiment pas à les poser via le lien que vous a envoyé, Elodie dans le chat. Votre première question est gratuite et nos juristes vous répondront dans les plus brefs délais. Pour retrouver toutes les informations que vous a exposées Alexandra, et c'était dense comme sujet, je vous invite vivement à télécharger le dossier de la même manière où Elodie vous a envoyé le lien. Ce dossier a été rédigé par Alexandra, d'ailleurs notre juriste, donc il est très complet. Il inclut 5 modèles de lettres et beaucoup de questions, pardon. Vous aurez vos réponses pour gérer au quotidien l'inaptitude de vos salariés. Vous pouvez également télécharger nos modèles rédigés par nos juristes. Ici, vous avez pour la proposition de reclassement ou encore la lettre de licenciement pour impossibilité de reclassement. Comme je vous le disais en début de webconférence, je vous invite vivement à aller découvrir nos solutions sur notre site pour trouver la formule qui vous correspond le mieux et correspond le mieux à vos besoins. Je vous remercie grandement pour votre participation. Merci beaucoup Alexandra pour toutes ces informations et
Merci à tous.
Et je vous donne rendez-vous jeudi 29 février, cette fois-ci, pour une webconférence avec notre juriste Gwenaëlle Petit sur les réunions du CSE. Et je vous donne rendez-vous le 21 mars à 14h avec notre juriste également, Lucas Benoiton. Nous allons cette fois-ci parler de vos obligations en matière de qualité de vie et des conditions de travail. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.
Merci.